Bonjour les amis, bienvenue dans Naturellement Vôtre. Juste sous nos pieds, dans la terre, vivent des millions de petits organismes bien cachés dans l'obscurité. Sur un mètre carré de sol, c'est-à-dire un carré de la largeur d'un grand pas, on ne compte pas moins de 260 millions d'animaux vivant dans la terre. Il s'agit pour la plupart de tout petits organismes, certains sont minuscules, ils ne font pas plus de 2 mm. Mais ils font partie de la microfaune, et puis il y en a qui sont un peu plus gros. Alors là, un peu plus gros, on va en parler bien sûr, avec notre passionné comme nous le sommes, c'est Jean-Pierre Fleury. Alors ils passent leur temps sous la terre, ils sont tranquilles, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, heureusement qu'ils sont là, parce que sinon on serait pas vivant. Et ceux-là, ceux qui sont un peu plus gros, c'est la mégafaune. Ce sont des animaux qui font à peu près plus de 10 cm. Alors on peut citer la taupe, et nous verrons qu'encore ces taupes, il n'y en a pas. C'est peut-être bien, c'est peut-être pas bien. Vos questions, bien sûr, vos réactions, vos commentaires, vos questions découvertes au 04 95 32 22 22 vous attend Nathalie Benoît. Il y a Jean-Pierre Brunet qui réalise cette émission ce matin.
Jean-Pierre Aguavir, Jean-Pierre Fleury, Naturellement Vôtre sur RCFM.
Bonjour moi, bonjour lui.
Bonjour l'homme qui est au microphone.
Lui-même, et vous-même, qui êtes assis dans un fauteuil, vu sur la mer.
Exactement.
Pardi, avec Lily qui vous amène le café, mais je connais ça, je connais ça. Alors dites-moi, c'est dingue les petits animaux qui sont sous nos pas.
Ça fourmille, oui. C'est pire que ça, c'est une effervescence totale, jour et nuit. Sur un mètre carré, ok, il y en a, je crois, plusieurs... 250 millions.
260 millions, on a dit. Voilà.
Parce qu'une poignée d'humus, à certains endroits, pourrait contenir... il y a autant de micro-organismes dans une poignée d'humus...
Qu'en Europe.
...qu'il y a d'habitants dans cette terre.
C'est un truc de fou.
Hein, ce monde-là est effectivement complètement inconnu. C'est des animaux qui vivent dans la terre, hein, c'est pas des animaux qui vivent sous la terre.
Tout à fait.
Il y a une petite nuance. Bon, il y a des animaux cavernicoles qu'on connaît plus ou moins, mais ceux qui vivent dans la terre, qu'on devrait connaître d'ailleurs, parce qu'il suffit de donner un coup de bêche. Vous voyez ce que je viens de dire là,
hein,
vous donnez un coup de bêche et vous embêtez environ plusieurs milliards d'êtres vivants.
Notamment les acariens.
Les acariens, les colamboles, plein d'insectes. Et puis, alors, bien sûr...
D'où la chanson, tous les acariens et toutes les acariennes.
Exactement.
Vont danser, vont chanter.
Oui. Et donc, cette masse, elle est absolument nécessaire. On va voir qu'il y a quelques petits inconvénients, parce que ça gratte, des fois, ça sent et autres. Mais cette masse vit dans ce qu'on appelle la litière, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que tout ce qui tombe, tous les végétaux tombent au sol. Et puis, on dit qu'ils se décomposent. Mais ce n'est pas l'opération du Saint-Esprit qui les décompose. C'est toutes ces petites bêtes-là qui sont au boulot nuit et jour. Alors, dans leur intérêt propre, bien entendu, puisqu'ils vivent de ça. Mais imaginez que ces animaux, animaux, champignons, bactéries et autres, n'existent plus. Eh bien, la couche, ça prendrait 50 cm ou 20 cm tous les ans. Mais après, ça finirait par étouffer les arbres même, et puis. Donc, fort heureusement, c'est étudié pour, c'est en même temps le grand recycleur.
Alors, il y a un reportage que j'ai vu il y a une dizaine d'années sur les petites galeries que font ces petits animaux sous le sol. Et la conclusion, c'était, heureusement qu'ils font les galeries parce que ça participe à l'oxygénation du sol.
Ah ben complètement. Alors, est-ce que il n'y a pas que l'oxygène qui est très important, mais c'est une... On va bien sûr parler des vers de terre, mais on va commencer bien sûr à en dire du bien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mal à en dire. Mais c'est quand même un sacré jardinier. Il remplace le labourage en recyclant la matière végétale. En herçant, il aère la terre, il remplace les épandages d'engrais en fabriquant des matières organiques. Donc tout ça, c'est quand même...
Et parce que quand ils font popo, les vers de terre, ça sert.
Puis, ils font popo, alors il y a des chiffres faramineux. C'est-à-dire que... bien sûr, fort heureusement, on va pas chercher à contrôler tout ça.
Non.
Mais tout ça, c'est toujours le gigantisme. Mais votre jardin... La quantité de terre de votre jardin, c'est-à-dire, on va dire, quoi, sur les 70 premiers centimètres, il est retourné par les animaux, par les vers de terre, tous les 50 ans. C'est-à-dire que tous les 50 ans, toute la terre est passée dans la gueule du vers de terre et est ressortie par derrière du ver de terre. Donc tout ça, c'est digéré, c'est enrichi, ça aère, ça nourrit. Enfin, c'est juste une mécanique fantastique.
Et
donc,
y avait un
hommage
film...
soit rendu au ver.
Et il y avait un film qui était sorti, qui a eu un succès colossal, c'était Microcosmos à l'époque.
Bien sûr. Ouais.
Et là, c'est vrai qu'on avait découvert des trucs, c'était des monstres, parce qu'ils étaient filmés en macro. Ouais. Mais, et c'est là qu'on s'est rendu compte, enfin moi, après, ouais. Bon, les autres non, parce qu'ils sont intelligents, mais moi non, mais que, ouais, qu'il y avait une faune exceptionnelle qui était sous terre, quoi.
Et oui, que, voilà. Elle est surtout inconnue. Elle est minuscule, mais bon, nos vers de terre, là, on n'a quand même pas à en rougir, hein, le fameux lombric, là. Ouais. Parce qu'il y a quand même des lombrics qui font, bien tirés quand vous leur foutez la paix, j'en ai vu, moi, qui, avant de les mettre sur l'hameçon, qui faisaient 40 cm.
Waouh! Hein.
Donc, vous amusez à faire bout à bout, à mettre tout ça bout à bout. Je m'étais amusé avec ça. Les agronomes nous disent que dans une belle prairie bien nourrie, avec des choses fertile, à décomposer, ouais. etc., il y en aurait environ 2 millions par hectare.
Ah oui, quand même.
Alors j'ai compté, ça fait en gros 4 tonnes.
Ah oui.
Hein, c'est déjà pas si mal que ça.
On peut aller à la pêche,
et puis, ces 2 millions d'individus, à raison, allez... Je vais pas, j'en prends des petits. J'avais compté, je crois, 15 cm par bestiole, ou un petit peu plus, je sais plus, oui, 15 cm. On arrive, si on les met bout à bout, hein, c'est un dressage qui n'est pas facile, ça fait 300 km.
C'est dingue.
Dans un hectare. C'est quand même la distance aller-retour, en prenant quelques petits chemins buissonniers, entre Ajaccio et Bastia aller-retour. Dans un hectare. Donc on pourrait imaginer la terre complètement recouverte de ça si tous les vers de terre sortaient en même temps. Un petit peu comme une balle de golf, vous voyez.
Oui, c'est vrai. Alors, il y a ceux qu'on connaît, les lombrics que vous avez cités, parce que c'est vrai qu'on pêche avec. Il y a les vers à bois, là. Comment on appelle ça?
Oh, alors là, il y en a. Si on a attention, les vers, là, c'est la carte, c'est la carte des cocktails. Il y a tout ce qu'on veut. Alors, il y a dans ce qui vit dans on connaît surtout ceux qui sont relativement gros.
Hein. Oui, voilà, le lombric, notamment.
Le lombric. Le lombric qui ne vit pas simplement sous terre, d'ailleurs, c'est assez étonnant. Hein. Pendant la nuit, il est dehors. Ah. Et c'est une façon de les attraper. Si vous l'attrapez des lombrics sans forcément retourner tout le terrain chez vous, vous attendez que la nuit soit tombée. Bon, il faut que ce soit relativement mouillé pour qu'ils sortent. Et là, vous essayez de les attraper parce que c'est très étonnant. C'est d'une vivacité extraordinaire. Il y en a toujours un bout. Hein, qui est dans la terre.
Oui.
Et quand vous cherchez à les attraper, ça part et ça va se remettre dans la terre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce ver de terre, là, ce lombric, bon, ça y est, c'est lubrique, c'est un peu le même mot d'ailleurs, ça veut dire.
Ah bon?
Oui, ça veut dire graissé, plus ou moins. Enfin, ça veut dire glissant. Hein.
Oui, c'est le cas d'ailleurs.
Voilà, oui, pas tant que ça, parce qu'il y a un truc qui est très étonnant dans l'anatomie d'un lombric, si vous regardez bien, il est poilu. Il est poilu comme un ver.
Exact.
Et oui. Et c'est ce qui lui permet aussi de se déplacer. Mais avec un inconvénient énorme, c'est que nous, on ne l'entend pas, on n'a pas les oreilles pour ça, bien qu'avec un bon micro, on puisse le faire.
Oui.
Mais les prédateurs les entendent.
D'accord.
Et un kiwi qui est bien fait de sa personne, il est capable d'entendre le ver de terre, de l'entendre. Un vanneau ou une bécasse, sans forcément l'entendre, le sent en train de se déplacer. Hein, alors, ses poils, ça lui sert aussi, bien entendu. Il vit dans un monde qui est un monde extrêmement, qui est totalement obscur, donc ça lui permet d'être en contact avec son environnement. Hein, ça, c'est très important. Alors, un ver de terre, on l'a dit, on l'a évoqué, ça a une gueule et ça a une sortie.
Ouais, une
sortie.
Ouais, bien sûr.
Hein, et donc, ensuite, c'est un long, j'allais dire, c'est un boyau, mais avec quand même. Un gésier, vous savez, on sait comment fonctionne le gésier de nos poules, mmh. C'est-à-dire que c'est un muscle qui est très fort, dans lequel il y a des petits cailloux qui servent à broyer. Hein. Les petits cailloux servent à broyer le grain. Hein. Là, bah, ça sert à broyer un petit peu toutes les... Et donc, tout ça se fait, il y a un tas de bactéries là-dedans, et puis ça ressort l'anus de la bestiole, et ça fait ce qu'on appelle des terricules. Alors c'est un mot qui est assez marrant. Les terricules, c'est ce qu'on voit tout le temps. Vous savez, quand on... Ça ressemble un peu, d'ailleurs, là, c'est la même chose que pour les vers de mer. Hein. On voit des petits tas. C'est une terre qui, elle, est très riche, très aérée, et dans laquelle il y a, effectivement, ce que le ver de terre n'a pas digéré, mm-hmm. qui va, de toute façon, resservir à quelque chose et très souvent continuer à être décomposé par des bestioles encore plus petites.
Voilà, hein, donc rien ne se perd.
Dans les mythes autour du ver de terre, on prend un ver de terre, on en a besoin de trois, on le coupe en trois, il va continuer à vivre. Que nenni, c'est pas vrai.
Il meurt.
Là, il meurt, la pauvre petite bête. Mmh. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a quand même ce ver de terre a quand même des organes. Mmh. Alors, on dit tout le temps, et une des preuves que les gens veulent donner, c'est qu'il y a des cicatrices. Alors, on a toujours l'impression, quand on regarde un ver de terre adulte, attention, qu'il s'est cicatrisé. Vous savez, il y a des sortes de renflements de chair. Mais pas du tout, c'est leur organe sexuel. C'est là où les choses se passent. Le ver de terre est hermaphrodite, avec comme certains poissons ici, comme la girelle, lorsqu'ils sont jeunes, ils sont femelles.
Et après ils deviennent mâles.
Mmh. Mais ils ont les deux caractères en eux, c'est-à-dire qu'ils sont hermaphrodites. Et là, alors si vous comptez les segments, hein, puisque je crois qu'il y en a une centaine de segments sur un ver de terre, si vous avez le temps, je vous engage à le faire. les 10e et 11e segments, c'est les choses du monsieur. Ouais. Enfin, c'est quand il est monsieur, et ce qui sert, les ovaires sont dans le 13e segment.
D'accord.
Voilà.
Alors, il y en a qui sont pas sympathiques, quand même, hein, les mille pattes, les cloportes.
La même marque, tout ça. Hein,
c'est des vers aussi, non?
Non, c'est les. Alors, c'est compliqué ce qui vit dans la terre. Il y a des choses qui ressemblent à des vers, qui sont les larves des insectes.
Ah oui, exact.
Les vers ne sont pas des insectes, c'est des annélides. Alors, il y a toutes les qualités que vous voulez. Simplement, dans les lombriques, il y en a qui, quand même. Qui font jusqu'à 3 mètres de long. Alors, on n'en a pas ici.
Comme le ténia, quoi.
Oui.
C'est pas la même famille.
Ils vivent en Australie.
Hein, ceux-là, d'accord.
Et ils sont d'ailleurs, c'est devenu, c'est assez marrant, bon, c'est devenu des nacs, des nouveaux animaux de compagnie.
On parlera d'ailleurs nutrition en parlant des vers, puisque on m'a ramené il y a quelques années de ça, des petits vers qui étaient sautés, qui venaient d'Asie. Je trouvais ça très bon d'ailleurs. Ah, et il paraît que si demain on avait un problème de famine, y a pas mal de populations et de peuplades primitives qui le sont simplement dans les thermes, qui arrivent à se nourrir avec ces animaux.
Certes.
Et vous le savez parce que vous en avez goûté.
Certes, mais la sagesse qui est la vôtre et qui est presque chinoise, tellement elle est sage, cette sagesse, vous ferait dire ne me donne pas un poisson, mais montre-moi comment il faut.
Pêche.
Comment il faut le pêcher.
Voilà, tout à fait.
Donc, ne te sers pas du ver de terre pour le manger directement, sers-t'en comme un pas.
Tout à fait. C'est ce que fait Jean-Pierre Fleury régulièrement. Il est 14h15, les amis. On va écouter une chanson. On revient, bien sûr, parler de ces animaux qui vivent sous terre. Mais j'aimerais bien que l'on parle aussi des animaux absents. En Corse, on va le voir avec Jean-Pierre. Il y a un animal qu'on ne connaît pas. Ouais. C'est la taupe. Alors, il y a peut-être des taupes dans d'autres sociétés dont je tairai les noms. Mais concernant la terre, nous, chez nous, il n'y a pas. Comme il n'y a pas la vipère. Et puis, il y a d'autres animaux comme l'écureuil qu'il n'y a pas non plus. Puis, on verra qu'il y a deux animaux qui plaisent bien à mon ami Jean-Pierre. On en parlera tout à l'heure. Mais c'est des animaux sympathiques. La courtilière et le petit duc.
Alors, la courtilière, je vais faire crier tous les jardiniers, là, si je la trouve sympathique.
Ben oui, ben nous, on trouve tout ça sympathique. Et puis, s'ils ne sont pas contents, les jardiniers, mais qu'ils nous appellent. Voilà, 04 95 32 22 22. Au moins, on sera plusieurs à bavarder. Alors, on écoute une chanson. Elle est magnifique, elle est belle, elle est jolie, elle est intelligente, elle a tout pour elle. Elle s'appelle Diana Zalijed. Elle chante Tesoro Meu, c'est-à-dire mon trésor. Et votre trésor, c'est peut-être Jean-Pierre Fleury aussi. Hein, vous nous écoutez, donc c'est bien. On est presque voisins. Elle est pas loin, hein.
Ouais,
elle est à côté. Ah, vous la connaissez en plus. Ouais. Ah, d'accord.
Côté de Campo Moro.
Côté de Campo Moro, tout à fait. Et puis c'est une belle personne. Tout de suite, voici Diana Zalijed.
Si giunta una mana bonora, ha illuminato la labore, tesoro mio. Cui doti gloro amore. Fatti di belle di urare, tesoro mio. Si giunta tempo uso marzo, ma questo solo nera varso, sa ston di me e stantarada. Hai scelto i da a mano, a quelli che erano lontano, tesoro. Ti adobe lei ligada con ta visione.
potene, noi sciolte gadene, e i doviori zoccume d'erni. Ti gunterò di ue bassade, da dodella rigalade, tesoro mio. Mi burterò i verdi la bene, e per sempre di olio d'enne, tesoro mio. E cento inverni romperemo, mi laie in ode veremo, e sto verrà da irrigata, tesoro mio.
J'ai toujours les frissons quand j'écoute la voix de Diana Zerigène. Je ne sais pas ce qu'on pense, Jean-Pierre Fleury.
Jean-Pierre Aguavir. Jean-Pierre Fleury, naturellement vôtre. Sur RCFM.
Oui, je sais pas. Non, Jean-Pierre.
Ah, si, si, si. Je suis alors tout à fait.
Frissons.
Oui, oui, c'est la beauté de la voix humaine. Ouais. Il y en a. Peut-être faire des comparaisons qui vont loin, mais je veux dire. Il y a des très grandes cantatrices qui. M'émeuvait pas plus que ça.
Mais là, il y a une intensité, il y a une émotion, il y a plein de choses dans cette voix magnifique. Ouais. Bon, sans transition, mais alors vraiment aucune. Mais alors aucune.
Ah oui.
La taupe.
Oui, alors oui, ça, effectivement, c'est vraiment. Mais hein, bon, alors, la taupe.
Parce qu'on parle d'animaux qui vont sous terre.
Oui, ouais, exactement. Donc la taupe, qu'est-ce qu'elle va faire sous terre?
Elle va manger.
Eh ben, elle va manger, et qu'est-ce qu'elle mange?
Des racines.
Des vers de terre, uniquement, toujours des vers de terre.
Ah, j'étais persuadé qu'elle faisait des labourages.
Et parfois, pourquoi pas, des vers blancs, de hannetons, des larves de courtillères, etc. Donc, cette taupe-là, toute chose malheur est bon. En Corse, on connaît pas la taupe. Parce qu'il n'y en a pas. Alors pourquoi il n'y en a pas, je ne sais pas. Il faudrait aller voir des instances plus importantes que moi qui ont fait que.
C'est curieux.
Oui, non, c'est très étonnant. Bon, il y a beaucoup d'animaux, de grands animaux.
Ah, ouais, ouais.
La taupe est un mammifère, hein, donc classé en haut, un animal important, en tout cas, et compliqué. On rappelle qu'il y a beaucoup d'animaux qui vivent sur le continent, qui ne vivent pas ici.
L'écureuil,
on a parlé du chevreuil, il n'y en a pas, les blaireaux qui vivent en partie sous terre, puisque qui font des terriers. Il n'y a pas de fouines, il n'y a pas de martres,
pas de castor non plus.
Il n'y a pas de castor non plus. Et bonheur ou malheur, bonheur, il n'y a pas de taupe. Pourquoi bonheur? Parce que, en gros, une taupe dans la forêt, elle ne gêne pas du tout. Il y en a d'ailleurs plein, si on regarde, il y en a. Où il y a des vers, il y a des taupes. Bon, c'est justement où c'est étonnant, c'est qu'on pourrait dire il n'y a pas de taupe en Corse parce qu'il n'y a pas de vers de terre. Bah, que nenni, il y a des vers de terre.
Donc
c'est pas ça. Donc elles sont dans la terre pour manger les vers de terre. Alors comment ça se passe? C'est pas parce qu'elles voient un vers de terre au loin avec ses petites pattes qui sont formidablement fortes. Moi, j'ai attrapé des taupes vivantes. C'est incroyable la pelleteuse que ça représente. Les deux pattes avant sont hypertrophiées et c'est vraiment des outils quoi.
On a l'impression, Jean-Pierre, quand on voit des photos, quand on voit des films, que c'est des griffes. C'est des griffes ou pas?
C'est plus fort que des griffes. C'est des griffes d'ours, si j'ose dire. C'est pas fait simplement pour gratter, c'est fait pour pelleter aussi. Alors pourquoi il faut pelleter? Parce que depuis que les taupes, elles passent leur temps à faire la maintenance de leurs galeries.
D'accord.
Donc les galeries, alors elles font une taupe qui se respecte, elle a 200 mètres de galerie à elle. Et dans ces 200 mètres de galerie, c'est son terrain de chasse. Donc son terrain de chasse comment? Parce que les vers de terre ils passent dedans. Donc la taupe, qui est quasiment aveugle, puis de toute façon il fait noir comme dans quelque chose, elle voit rien, mais elle entend, elle sent. Il y a des histoires de pression. Enfin, tout ça, c'est un monde qu'on a du mal à imaginer. Elle sait que à tel endroit, elle entend d'ailleurs. Elle n'est pas sourde. À tel endroit, il y a quelque chose d'intéressant. Donc elle va tout à fait cessante dans la partie de ses galeries où elle entend quelque chose. Et puis parfois, il y a des petits éboulements parce que c'est pas étayé la galerie. Donc les fameuses taupinières qu'on voit, très souvent, c'est simplement le fruit, des déblais de ces éboulements.
Ah, c'est effondré, quoi.
Voilà. Alors, il y a une autre chose aussi qui fait qu'il y a des déblais, c'est que comme elles sont complètement inféodées aux vers de terre et que les vers de terre, eux, sont inféodés à l'hygrométrie de la litière, de la couche, quand il y a de la flotte, ils sont pratiquement en surface. Donc, il faut refaire, s'ils viennent de remonter, il faut refaire les galeries de surface. Et puis, quand c'est très sec, ils descendent au maximum pour trouver l'endroit où il y a de l'eau. Hein, en tout cas, ils vont vers les endroits où il y a de l'eau, où c'est humide. Bien entendu, ça ne vit pas dans l'eau, tout ce monde-là. Et là, il faut encore une fois refaire les galeries. Donc, il y a aussi parfois... Alors, les galeries, ça veut dire à nouveau des taupinières. Il y a un mot pour ça. Ces taupinières, elles sont en général, c'est uniquement du déblai. Sauf, il y a toujours un déblai plus important quand c'est la saison. Mmh. Quand il y a des petits, là, il y a une chambre qui est fabriquée. Et la chambre...
Elle ne bouge plus.
Elles sont dedans. Et la taupinière qui est au-dessus, il y a davantage de déblais, elle est plus forte.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... alors, elle vit en famille ou elle est plutôt célibataire?
Il y a des vieilles taupes qui ne sont pas faciles à traire. Hein. Elles sont plutôt solitaires, sauf au moment au début du printemps. Hein, ça se passe dans la chose se passe dans le terrier de la femelle. Moi, je l'ai jamais vu. Il paraît que c'est d'une violence extrême.
Hein, alors, justement, Jean-Pierre, puisque vous êtes aussi, alors là, pour le coup, je vais pas vous lâcher là-dessus. Comment ils font pour filmer? Comment vous faisiez pour filmer sous terre? Vous mettez quoi? C'est des petites caméras?
Alors, comment ils faisaient ou comment ils font?
Comment ils font?
Parce que tout ça a changé complètement. Maintenant, il y a des caméras fantastiques. Il y a quasiment plus besoin de lumière. Vous voyez la difficulté, parce que si vous balancez de la lumière dans endroit où il y a des animaux qui sont lucifuges, ils font plus rien, ça leur coupe la chic, si j'ose dire. Tandis que là, maintenant, il y a des choses d'une sensibilité faramineuse. Mon mien fils est parti tourner là avec une caméra. Il y a une sensibilité 5000 fois supérieure à celle qu'on pouvait avoir. Donc il faut même presque faire attention, quoi, parce que la lueur d'une cigarette à 15 mètres, ça surexpose complètement tout ce que vous faites, quoi.
Très clair. En tout cas, ce qu'on peut dire sur la taupe, Jean-Pierre aussi, c'est que c'est une goulue.
Ah bah oui, elle s'enfile des quantités énormes. Le grand principe, c'est quand il y en a, on mange. Alors elle fait, encore une fois, c'est un mammifère, donc il doit réguler elle-même sa température, donc a besoin d'énergie. Elle n'hiberne pas, hein, elle descend un petit peu, s'il faut. Elle peut se mettre en une sorte, même pas en léthargie, mais bon, elle a beaucoup moins d'activité. D'ailleurs, parce que quand la terre est gelée, ça ne passe pas. Hein. Donc, elle est obligée de se contenter des galeries qui sont bien ouvertes. Hein. Donc, c'est un truc qui est très important pour tous ces animaux.
Comment
elle
fait pour respirer, Jean-Pierre, alors, quand elle est...
Il y a de l'air, hein, dans les galeries, il y a de l'air.
Alors, il paraît qu'elle mangerait, parce que c'est une goinfre, il paraît qu'elle mangerait, alors elles ne sont pas grandes, hein, j'étais surpris, 140 grammes.
Oui, mais par quoi?
Non, il dit que la taupe d'Europe mesurerait 20 cm de long pour les plus grandes, pour une masse de 60 à 140 grammes. Après, au niveau
de ce qu'elle pèse.
Une
belle taupe.
Hein. Ouais, c'est pas mal, quoi. Mais il paraît qu'elle mangerait, alors d'après ce que j'ai lu, la moitié de son poids en une journée, elle pourrait mourir d'inanition en moins de 12 heures de jeûne.
Oui, c'est ça. Donc c'est quand même une sacrée goulue, la taupe. Hein. C'est étonnant. Elle mange, bien sûr, donc des vers de terre. Elle mange le ver, elle laisse la terre. Mais elle nettoie le ver, elle le tient dans ses pattes avant, hein, et elle s'en sert comme les enfants, ou moi encore de temps en temps, mangent des spaghettis.
Ah, carrément. Elle n'est pas bête, hein.
Elle est merveilleusement adaptée. Alors, on raconte un tas de sornettes sur cette taupe. Elle est myope. Bon, elle est même plus que myope. Elle est quasiment aveugle, parce qu'elle n'a pas besoin de voir, il fait noir. Bien que parfois, elle s'aventure à terre. Elle s'aventure à la surface de la Terre. Bon, quand il y a des inondations, quand il faut vraiment aller plus loin que loin. Et puis, on avait commencé à évoquer le rut. Quand il y a un mâle qui se pointe dans un coin et qui prend une bonne dérouillée par l'autre mâle, il part du réseau de galeries, donc du terrain de chasse de celui qui lui a passé une petite dérouillée. Et puis après, il part et il va à la surface. Et là, il est extrêmement vulnérable.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les agriculteurs, ils n'aiment pas trop la taupe. Hein.
Ah non, c'est parce que, bon, il y a surtout... alors, il y en a c'est direct parce qu'il y a les galeries, parce que les taupinières abîment les lames. Hein. Avant qu'il se soit mécanisé, les gens supportaient beaucoup plus, d'ailleurs en général à peu près tout, mais surtout les taupes. Et moi j'avais rencontré un bonhomme qui aurait maintenant 120 ans, qui était taupier de son état. Parce qu'il y a des taupiers, il y en a peut-être qui nous écoutent. Il y en a. Bon, c'est-à-dire, il y en a pas encore, c'est pour cause. Oui. Monsieur, là, il faudrait pas envoyer le bouchon trop loin. Qu'est-ce que vous faites? Je suis taupier en Corse, oui, mon grand. Hein. Et n'empêche que sur le continent, il doit y avoir, je sais pas, peut-être 100 ou 200 taupiers. Il y en a même un que j'avais rencontré dans un tournage d'Histoire naturelle, qui était le taupier officiel du roi, puisque à Versailles, pour avoir des bonnes pelouses, il faut savoir se débarrasser des taupes. Et faire ça discrètement, parce qu'il y a toujours des bonnes âmes qui disent à la pauvre bête, elle a un papa et une maman.
Oui, hein, d'accord.
Donc, et d'autant plus qu'on a tout essayé pour se trucider les taupes, hein, absolument tout. Le verre, sous prétexte que il y avait dans les idées reçues les imbécilités, la taupe est hémophile, soi-disant.
Hein. Oui.
Vous imaginez un animal sauvage qui est hémophile, il n'aurait pas de lignée, ça passerait plus, c'est pas possible.
C'est
bon,
clair.
On a essayé la chimie. On a essayé la lutte végétale, puisqu'on a fait venir des plantes dont les racines, soi-disant, sont des répulsifs pour les taupes. Bon, les plantes ont proliféré, les taupes continuent à se marrer. Quoi. C'est tout, c'est pas... Donc le seul truc, c'est le piège.
Hein. On pourrait peut-être essayer de demander à Monsanto, peut-être que...
Oui, bah, oui, bah, ça, oui. Ça. Non, je n'ai pas, pas envie. Et autrefois, là, donc, mon taupier vivait, alors c'était vers 1920, quand on a commencé à faner avec des faneuses mécaniques et autres, et bah, il arrivait, il était taupier, il allait de ferme en Normandie, et c'était James Bond. Il venait, il rendait service, et c'est lui qui avait le savoir-faire pour attraper les taupes. Et taupes, alors, son contrat, c'était un type extraordinaire, qui avait une acuité de souvenirs fantastique.
Ouais.
Son contrat, c'était bien sûr d'être bien nourri, hein, ça c'était et d'avoir de bien manger et de bien boire. Et hasard du vocabulaire, bien boire en Normandie à cette époque-là, ça voulait dire avoir une bonne taupette.
Ah.
Et qu'est-ce que c'était que la taupette? Une taupette, c'est une petite bouteille, c'est la dose plurijournalière de Calva. Hein, donc un petit matin, un petit midi, et puis pourquoi pas un petit soir, où il y a environ 20 centilitres. Quoi.
Oh, c'est pas énorme.
Plus, c'est pas une taupette. Alors, il vendait ses taupes, ses pots de taupes.
Hein, ah bon?
Et il vendait, alors il se souvient aussi avec émotion.
Et ils en faisaient quoi?
Des pots de taupes. Les taupes, c'est la fourrure la plus douce qu'il y ait, et la plus chaude.
Ah, d'accord, je sais pas.
Ah oui, et donc il vendait ses pots de taupes le prix de 2 kilos de beurre. Pas mal.
À l'époque, c'était pas mal. Hein.
Et j'ai retrouvé la centrale de la Sauvagine, fondée en 1920. Toutes les peaux à fourrure d'animaux sauvages. 27 rue Ginoux, Paris 15e. Téléphone Vaugirard 1173, saison 26-27. Tarif numéro 2, annulant les précédents.
C'est fou, ça.
Taupe hiver, 1,80 francs. Blaireau, 30 francs. Chat sauvage, 15 francs. Chat domestique, 4 francs. Belette, 6 francs. Hermine, 6, etc. etc. Lapin, suivant le cours du jour. Les écureuils, 6 francs.
C'est vrai, c'est marrant ça. Alors, il y en a une qui va. Alors, il y a un dessin animé qui a rendu sympathique la taupe.
Ouais.
C'est le fameux René la taupe. C'était un film que l'on peut regarder sur YouTube. D'ailleurs, il l'a rendu sympathique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle fait beaucoup de dégâts, que c'est pas un animal en voie de disparition. Il y en a partout. Hein. Alors, moi, j'aimerais maintenant qu'on vienne à deux autres animaux qui, ça m'a plu, parce que quand vous m'en avez parlé, j'ai dit, ah oui, ça, c'est joli en plus, quoi. C'est joli, ils font des sons un peu particuliers.
Voilà, c'est ça.
Ils font notamment la courtilière. On va pas se faire des amis aujourd'hui, hein. Écoutez. Ouais. Alors ça, c'est une courtilière petite.
Oui.
C'est quoi la courtilière?
Ça, c'est pas le chien du voisin qui chiot qui s'est coincé quelque chose. Hein, c'est pas non plus. Alors on va y arriver. Celle-là, elle est. Il y a des sons parfois, c'est beaucoup plus flûté.
C'est vrai.
Hein, plus agréable que ça.
Alors là.
Elle est un petit peu enrouée, celle-là.
Alors, celle-là, c'est une courtinière. J'ai regardé donc sur le site où je suis allé la chercher. C'est une courtinière qui protège ses petits.
Ah, bah, c'est mignon, ça, ouais.
Voilà.
Alors, on va dire ce que c'est la courtinière.
Allez-y.
Puis après, on va la réécouter, si vous voulez, parce que c'est étonnant. Bon, la courtinière est un gros insecte. Hein. C'est la taupe grillon.
Alors, oui, c'est le nom vulgaire, c'est taupe grillon, voilà ça.
Et il y en a en Corse, les jardiniers le savent. Courtilière, il y a courtil dedans. Courtil, c'est un des anciens mots pour dire le jardin. Et donc, cette taupe grillon fait 5 ou 6 centimètres. C'est gros comme un gros grillon. D'ailleurs, ça ressemble, c'est un grillon hein, qui a évolué pour pouvoir vivre sous terre. et faire des galeries. Alors pour faire des galeries, c'est un véritable bulldozer, quoi, hein, avec des c'est les avant-bras, les pattes de devant sont hypertrophiées. On dirait qu'il y a un avant-bras qui est plus fort que celui de Popeye, hein, c'est vraiment et ça se termine au bout par deux pinces qui sont l'équivalent de pinces de homard.
Oui.
Et ça sert à fuir, hein, et à, non pas à fuir, à fuir, et surtout à couper des racines de végétaux.
Et c'est vrai que quand on la voit, la courtilière, c'est un animal préhistorique. Hein.
Ah, complètement, mais surtout quand on la voit alors, se dresser, parce qu'elle a sa vie sous la terre, mais aussi elle vole. C'est-à-dire que la nuit, la courtilière sort, elle fait aussi tout ce qu'elle a à faire. Et avec, il y a beaucoup de choses qui se font à la surface, en particulier les accouplements et les bagarres entre mâles. Ça fait vous imaginez ces animaux, c'est quelque chose qui est très impressionnant.
Ah oui, mais elle est impressionnante en plus.
Il semblerait, alors c'est pareil, il y a tout le temps des gens qui font des expériences. Moi, j'aurais bien aimé le faire parce que c'est quand même. Elle est capable, avec un seul bras, paraît-il, de déplacer 100 fois son poids en terre.
Ouf!
Hein? Donc, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Alors, on a dit qu'elle était de la famille des sauterelles, donc c'est un animal qui stridule.
Oui. Hein?
Et c'est ce cri qui est très difficile à identifier, qu'on entend à la nuit tombée, quoi, les beaux crépuscules de chaleur du mois d'août, on l'entend.
Oui, ce son-là. Alors c'est curieux parce que là, elles sont petites. Il y en a quelques-unes là, qui ont été enregistrées par un professionnel. Et c'est vrai que ce cri-là, maintenant qu'on l'a écouté, moi j'ai tendu l'oreille quand vous m'en avez parlé, c'est vrai qu'on l'entend. Alors je ne sais pas si on l'entend toute l'année, ou s'il y a des périodes où on les entend plus que d'autres, Jean-Pierre.
Ah oui, bah, de toute façon, l'hiver, tout ça, c'est.
On n'entend plus rien.
Froid, c'est silence radio. Hein. Donc, alors, ces cris, il y a les cris. C'est pas des cris, attention, hein, c'est des stridulations. C'est les mâles. C'est toujours la fameuse histoire, est-ce que c'est un air de violon pour la dame ou est-ce que c'est quelque chose de plus guerrier, de plus martial pour dire aux autres mâles, attention, c'est
une gaffe. Alors pourquoi elle est considérée comme menacée en général, alors pourquoi il y en a qui ne l'aiment pas, il y en a qui la protègent, par rapport à quoi, c'est un animal nuisible, c'est quoi?
Les gens n'aiment pas qu'on aille sur leur plate-bande en général.
Mmh.
Hein, je ne dis pas ça, je ne dis pas qu'on aille sur les miennes. Hein, mais les plate-bandes, c'est quelque chose qui était précieux et qui le redevient d'ailleurs avec la passion du jardinage. Donc c'est vrai que quand vous avez un jardin qui est infecté
de courtilières.
De courtilières, de larves de courtilières, il n'y a pas grand-chose qui survit. Parce que la mauvaise idée, pour se déplacer, de filer tout chousse, quoi. Hein. Donc alors effectivement. On peut dire, là encore, on va faire à charge et à décharge. Bon, à charge, il y a le fait qu'elle coupe toutes les racines. Hein, ça, c'est. Vous avez une plante à rhizome, à racines ou autre, c'est coupé et c'est déjà, ça peut être des plantes très importantes qui dépérissent à cause de ça. Bon, à charge, on peut dire qu'elle remue la terre. Ça, pourquoi pas. Et puis aussi, elle mange alors, d'autres insectes, entre guillemets.
Les vers de terre.
Les vers de terre qui ne sont pas des insectes, mais dont on a dit que du bien. Donc, on ne va pas dire que c'est bien de les manger. Mais on va dire aussi qu'elle mange les vers blancs, c'est-à-dire les vers de hanneton.
Mm-hmm.
Alors, on a tous trouvé ces gros vers blancs-là. Et puis les vers gris qui sont des vers qui sont des larves de tipules, de choses comme ça. Cette courtilière, on peut facilement la confondre son chant lorsque le soir est arrivé avec le chant du petit duc.
Et chez nous, les petits ducs, il y en a.
Il y en a, oui. Voilà. Ils sont. Voilà.
Alors ça, c'est. Ouais. Ça, c'est le petit duc.
Eh oui. Et alors, c'est le chant de la courtilière, enfin le cri de la courtilière ressemble parfois à ça.
T'es fou, ça. Alors là, vraiment, là, il y a confusion complète.
Ah oui. Ah oui.
Alors, le petit duc, Jean-Pierre, puisqu'on en vient à parler du petit duc, il chante toute l'année?
Non, mais c'est pareil, il chante quand il a quelque chose à dire. Hein. Donc, à partir de. Là, il est quasiment muet. Hein. Bon, en tout cas, moi, je n'entends pas.
Non.
Il y a des gens qui l'entendent, on peut peut-être leur demander.
Oui, bah, n'hésitez pas à appeler. Hein.
C'est quand la saison des amours va recommencer.
Et alors, espèce protégée?
Ah oui, le petit duc.
Ah oui.
Ah oui, ah oui, oui, ça. Mais ça ferait cher du kilo. Hein.
Ah oui, le petit duc, le grand duc, ouais. La chouette, tout ça.
Alors j'imite bien le grand duc.
Allez-y. Voilà. Vous avez grand duc en live, les amis.
Alors le moyen duc, je sais pas, puis tous les autres ducs, la tournée des grands ducs et autres.
Non plus, ça aussi, on fait ça. Ouais, on fait. On va écouter une nouvelle chanson avec Daniel Balavoine, et puis vous pourrez gagner le livre de Jean-Pierre en nous appelant rapidement au 04 95 32 22 22. Le monde impitoyable et magnifique des 100 oiseaux sélectionnés par notre ami Jean-Pierre. On se retrouve tout de suite après pour continuer à parler de ces animaux magiques. Oui, le petit duc notamment. Petit duc qui doit manger des insectes aussi. Voilà.
Voilà.
C'est petit, joli, c'est doux, c'est fort, c'est plein de couleurs. Pour l'amour, l'ennui ou pour la mort, pour sucrer les pleurs, rouge au cœur. Oh, lipstick pour les hommes. Oh, lipstick pour les femmes. Lipstick for the men. Oh, lipstick for the
C'était Daniel Balavoine.
Jean-Pierre Aguadir, Jean-Pierre Fleury, à l'état naturel.
Et moi c'est les sourires d'Evelyne, ça me donne des frissons aussi.
Oui.
On a Elisabeth qui est en vacances chez nous à Bonifacio. Elisabeth est de Toulon. Bonjour Elisabeth.
Bonjour les deux Jean-Pierre, sympa.
Comment elle va Elisabeth, sympa?
Ça va bien, merci.
Bon.
Il y a un réalisateur aussi qui s'appelle Jean-Pierre.
Il y a Jean-Pierre, ouais.
Qui est sympa aussi.
Qui est sympa aussi. Ouais. Vous êtes en vacances à Bonifacio.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Bon, il y a pire comme endroit pour passer ses vacances.
Oui, c'est vrai. C'est magnifique.
Bon. Et vous y êtes depuis combien de temps?
on y est depuis 6 jours. On était à Porto Vecchio.
Oh, c'est bien aussi.
Voilà.
Et combien de temps de vacances? Combien de vacances encore?
Ah, on repart jeudi.
Ah ouais, quand même, ouais, bah, ça va. Mmh. Fait 15 ouais. jours, quoi. Mmh. Bon.
C'est bien, on s'est bien reposé. On a vu de très belles choses.
Super. Alors nous, on va vous offrir ce magnifique livre écrit par Jean-Pierre Fleury.
Je vous remercie.
Voilà, sur les oiseaux, qui est vraiment superbe. Les plans. Oui. Qui c'est qui a fait les plans, Jean-Pierre? Rappelez-moi.
C'est pas moi.
Dit-il. Alors, oui, Isabelle.
Par contre, je voulais simplement dire qu'hier, au phare de Bonifacio, j'étais à 6 mètres d'un Milan Royal. J'ai fait une photo magnifique. On aurait dit qu'il était posé, suspendu sur le buisson. C'est fou.
Il vous a vu, il a pris la pose.
Ah, écoutez.
Vous l'avez séduit.
Je ne pensais pas impressionner comme ça. Mais c'était magnifique, en fait. C'est magnifique.
En plus, là, vous êtes sur une région, la région de Bonifacio, cette zone-là, une zone qui est quand même plutôt bien protégée au niveau de la faune et de la flore. Et c'est vrai qu'en plus, là, il y a moins de touristes. Donc, eux bénéficient en tout cas d'une quiétude relative, mais quand même plus importante que de l'été. Et du coup, on aperçoit des animaux qu'on ne voit pas forcément l'été.
Oui, tout à fait.
C'est aussi parce qu'ils sont pas là.
Attention au moindre bruit, au moindre vol.
Ils s'en vont.
C'est vrai que c'est. Voilà.
Alors, Jean-Pierre ajoute que c'est aussi parce qu'ils ne sont pas là.
Les oiseaux, c'est-à-dire que là, on est en plein dans la période de migration, donc il ne peut pas y avoir plus d'oiseaux qu'il y en a maintenant en Corse. D'espèces, en tout cas, pas en nombre, parce qu'après, il y a effectivement les étourneaux et autres qui vont revenir en nombre, mais au point de vue espèces, il y a tout passe là.
C'est la première fois que vous venez à Bonifacio?
Non, on y était déjà allé il y a 3 ans et on fait de la photo en club, donc on a les appareils qu'il faut pour.
Ah, waouh!
Mais on était. J'ai eu peur que ça déclenche pas tellement j'étais prêt en fait.
C'est
incroyable.
Alors, Elisabeth, vous savez que là, au bout du fil, vous avez un maître en la matière.
Oui, tout à fait.
Le nombre de films qu'a fait Jean-Pierre Sabonessy du Sans Souffrir, sur plein de choses, naturellement, et avec Igor Barrère. Mais j'oublie pas que la scène Season, c'est lui qui l'a déclenchée grâce à un ami qui lui avait demandé de la créer. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est modeste et qui ne parle pas trop de lui. Mais voilà, vous avez quelqu'un qui, quand il parle d'animaux, quand il parle, il sait de quoi il parle, quoi.
Bien sûr.
Il les a filmés,
c'est très agréable à écouter, votre émission.
Moi, je vous dis une chose, vous avez une voix radiophonique, Elisabeth.
Ah, c'est gentil. C'est pas la première fois qu'on me le dit, mais c'est très gentil à vous.
Ça veut pas dire que c'est un compliment.
Oh, bravo, Jean-Pierre. Oh, bravo.
Je l'ai pris comme ça.
Tout à fait.
Oui, mais bien sûr. Pour certains, c'est pour certaines.
Non, pour certaines, ça le fait, quoi.
C'est très gentil.
Elisabeth, on vous envoie ce livre. On vous envoie ce livre à Toulon, donc, parce que si vous repartez jeudi, ce sera mieux. Sinon, si je vais pas être indiscret, mais vous faites quoi sinon tout le reste de l'année?
Je suis secrétaire, monsieur.
Waouh!
Et mon mari est pilote d'hélicoptère, voilà.
Ah. Et vous savez que l'oiseau secrétaire, c'est un très très bel oiseau.
Ah bon?
Oui.
Ah oui? C'est le serpentaire.
Ah, le serpentaire. Ah oui, c'est majestueux. Hein.
On l'appelle secrétaire parce que, vous savez, c'est quand les Anglais ont commencé à faire les premières illustrations de Dickens ou autre, le secrétaire était représenté comme ça, quoi, assez haut sur pattes. Bon, bien sûr. Et donc, cet oiseau, il ressemble comme ça, comme s'il avait un petit habit queue de pie, vous savez.
Il est beau en plus. Hein.
Et alors, c'est lui il est spécialisé dans les serpents vivants. Quoi. Il côtoie, il marche. Il a un pas très étonnant sur ses grandes pattes et il est l'immensité de la steppe africaine. Et puis,
on le trouve que là, Jean-Pierre, la steppe africaine. Elisabeth, en tout cas, merci d'avoir été à notre compagnie.
Infiniment merci.
Continuez à passer de bonnes vacances.
Et c'est très gentil à vous.
Et je vais vous dire une chose, Elisabeth, puisque vous êtes à Toulon ou dans le même ceux qui nous écoutent en Chine, ils nous écoutent sur bleurcfm.fr.
Oui.
Sur Internet, voilà.
Oui, c'est très bien.
Je vous embrasse, on vous embrasse tous les deux. Au revoir, Elisabeth.
Au revoir.
J'adore qu'on nous appelle messieurs. Messieurs. Bon, revenons sur nos petits animaux, là. Le Grand-Duc. Alors, je suis allé chercher le nom en Corse. Alors,
moi, je le connais, mais je suis incapable de le dire.
Alors, moi, le seul nom que j'ai trouvé, qui est un nom générique sur cet animal, on l'appelle, Amalagil, ou Malagil, c'est la chouette. Voilà, c'est la chouette. Mais... par exemple, la Malagelayanka, c'est facile, c'est la chouette effraie, par exemple. Après, sur les autres noms, j'ai cherché, j'ai pas trouvé.
Alors, je vais très mal prononcer.
Allez-y.
Ujochu.
Alors, Ujochu, c'est le hibou.
Oui, mais c'est un hibou, notre petit duc.
Oui, mais cela dit, sur le nom propre du petit duc, on ne fait pas la différence. En
alors, il y a Chouchou à l'Oku, pour le moyen duc.
Ou Chouchou à l'Oku, oui, peut-être.
Ouais. Bon, enfin, moi, c'est la prononciation du sud-ouest, nord-ouest d'Aquador, c'est un peu spécial.
Oui, non,
mais ça ressemble un peu quand même.
Bon. Un peu, oui.
Bon. On rappelle quand même, tiens, c'est le moment, pourquoi pas, que les chouettes et les hiboux, c'est quasiment les mêmes bestioles.
Mais oui,
on a en France une richesse de vocabulaire zoologique. Gardons-la, donc on ne va pas commencer à dire que les chouettes sont des hiboux, etc. Mais pour les Anglais, c'est la même bestiole, hein, c'est owl, O-W-L. Ouais. Ces animaux, les oreilles des petits hiboux, là, des trois hiboux, c'est pas du tout des oreilles, hein, c'est de la plume qui fait qu'on sait d'ailleurs toujours pas trop à quoi ça sert. Ça les rend sympas, ça c'est certain, ouais. Ça peut être une influence sur l'audition. Parce que, vous savez, quand on regarde, et ça c'est encore plus net sur la chouette effraie, où y a les yeux sont dans des orbites où il y a beaucoup moins de poils. Vous savez, ça fait des grands ronds. Mmh. Et ces grands ronds, c'est presque l'équivalent des pavillons auditifs. C'est-à-dire que les sons arrivent là-dedans et sont renvoyés vers les oreilles, en tout cas le conduit auditif, par cette sorte de cloche qui les renvoie là-bas.
Alors il y avait une personne nous avait appelé, c'était il y a 3-4 ans, on était allé sur place la voir parce qu'il y avait un son très particulier. C'est une grosse chouette qui était plutôt grise mais grosse, hein, et qui on a l'impression qu'elle soufflait.
Oui.
Et on a pas su ce que c'était, elle chuinte. Mais on aurait dit vraiment un soufflement d'être humain, quoi. Hein.
Ouais.
Et on se demandait qu'est-ce que c'était. Est-ce que c'était parce qu'elle était amoureuse? Est-ce que c'était parce qu'elle avait peur? Est-ce qu'elle disait faites gaffe, je suis à côté?
Il y a un truc qui est très marrant, le petit duc là dont on parle.
Ouais.
Il fait la même chose que la chouette effraie et autres. C'est-à-dire que quand ils sont, et c'est très étonnant, quand ils se sentent menacés, ils se gonflent. Ils se mettent bien sur les pattes, je veux dire les pattes arrière sur les pattes, et puis ils essayent de se montrer beaucoup plus imposants qu'ils le sont, et en faisant en soufflant un peu comme un chat. Et le petit duc, je crois que c'est lui, c'est plutôt la chouette effraie, qui, pour impressionner ses adversaires, roule les yeux. Elle est comme si ça partait dans l'autre sens.
Et c'est très très beau, en plus, quand même.
Ah oui, ça c'est sûr. La dame blanche, c'est dans le silence, c'est la chouette des clochers, la dame blanche, l'effraie des clochers.
L'effraie
à la fois, ça fait peur. Et c'est vrai que bon, la pauvre bestiole, on l'a dit, on l'a mis mille fois, elle a payé très cher un tas de préjugés, de bêtises, ce qui fait qu'elles ont plus souvent été tuées et clouées sur la.
C'est la maladie qui amène la mort.
Oui, ce qui amène la mort. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est que ça, c'est vraiment dans le savoir des Corses, mais j'allais dire sans le savoir, ils reprennent le savoir des Grecs. Ces oiseaux-là sont des strigidés. Et les striges, je crois d'ailleurs encore en Corse, il y a un nom pour les sorcières, on n'est pas loin de ça.
Estrègue.
Voilà. Ouais. Et donc, c'était parce que donc, les Corses considèrent aussi que ces oiseaux-là étaient aller sur les cimetières, retourner les cadavres.
Moi, là, j'ai très particulier. Ouais. Un peu de poésie dans ce monde de bruit, vous voulez?
Ben pourquoi pas?
Ben les hiboux de Robert Desnos, parce que ça, elle est connue. Ce sont les mères des hiboux qui désiraient chercher les poux de leur enfant, leur petit chou, en les tenant sur les genoux. Leurs yeux d'or valaient des bijoux, leur bec est dur comme cailloux, ils sont doux comme des joujoux. Mais aux hiboux, pas de genoux. Votre histoire se passait où? Chez les Zoulous, les Andalous, ou dans la cabane de bambou? À Moscou, à Tombouctou, en Anjou, dans le Poitou? Au Pérou, chez les Manchous? Ouhou, pas du tout, c'était chez les fous. Voilà, c'était la poésie sur les hiboux. X restant l'inconnu, tout à fait. Alors, on a parlé des hiboux, les enfants, on a parlé du petit duc, on a parlé de la taupe, on a parlé de la courtilière, on a évoqué ces petites bestioles qui font notre vie, celles qui sont sous terre, il ne faut pas trop embêter, qu'il faut les laisser vivre parce qu'elles oxygènent la terre, elles nous servent à pêcher. On pêche beaucoup d'ailleurs avec les vers, dans tous les pays du monde, Jean-Pierre. Hein.
Ah oui, bon, le ver de terre, c'est vraiment, bon, on l'a dit, c'est la base de nourriture pour infiniment d'animaux. On parle des bécasses, on en parlera un petit peu. Elles sont quasiment en chemin.
On en parle la semaine prochaine, des bécasses.
Si vous voulez, on pourrait parler la semaine prochaine, justement, comme la chasse est ouverte, un petit peu de... On va regarder les oiseaux gibiers un petit peu plus comme des oiseaux que comme des éléments de terrine, quoi. Hein. On oui, va montrer que oui. Ça peut être vivant aussi. C'est aussi. Délicieux, c'est bien aussi.
Là, c'est bien de les voir.
Oui, aussi. Oui, vous savez que vous connaissez, j'aime bien, certaines personnes sont des personnes de terrain, d'autres des gens de terrine. C'est souvent oui. le chasseur est un homme de terrain et la femme du chasseur est un homme de terrine. Je connais des gens qui n'aiment pas du tout quand je dis ça.
Oui, ben donc, bon, je l'ai pas dit. Bon, on ne l'a pas dit. Non, vous ne l'avez pas dit d'abord.
Non. Donc, ça fait ventre. Le ver de terre fait ventre en permanence.
Ouais.
Hein, c'est absolument certain. Il y a une chose que je voulais rajouter sur, ouais. les taupes. On a commencé à parler de la peau de taupe.
Oui, exact, qui valait très cher.
Voilà. Et alors, tout le monde, maintenant, prend des notes dans des moleskines.
Oui, exact. Ouais.
Alors, une moleskine, ok, noire, oui, parce que la taupe est noire. Elle ouais. est, alors, avec un truc qui est aussi très énervant, c'est que quand vous regardez un nuancier pour repeindre ou pour ouais. acheter quelque chose, on vous dit c'est taupe. Alors, je dis, moi, j'aime pas les choses, enfin, je veux pas un truc trop noir. Et on montre dans le nuancier, la couleur taupe, c'est pas du tout taupe.
C'est pas du tout taupe.
C'est un petit brin énervant quand même, parce que ouais. c'est j'allais dire, ces gens-là, entre guillemets, qui vont à moi m'expliquer la couleur d'une taupe.
La couleur d'une taupe. Ah, ouais,
donc, la moleskine. On va faire un peu d'anglais, puisqu'on avait commencé.
Moleskine.
Bah oui, mais mole, c'est la taupe.
La taupe. Ah oui.
Skin, c'est la peau de taupe, figurez-vous.
Ah, joli.
Hein, donc, bah oui, voilà, parce que ça a été. La peau de taupe était tellement importante pour que.
Elle juste... a disparu presque des États-Unis, des d'Angleterre, la taupe d'ailleurs, hein, paraît-il.
Oui. Ben oui, parce que et on a commencé, quand on a commencé à savoir synthétiser quelque chose, je pense que c'était vers les années 20 ou 30, on a fait de la moleskine.
Voilà, qui n'est plus de la peau de taupe.
Non. Et alors, il y a quand même des taupes, il y en a un petit peu partout. Et je voulais arriver à parler du condylure.
Condylure.
Alors, là, je vais convier les gens à aller regarder ce que c'est que ce condylure. Hein, c'est la taupe à museau étoilé. Étoilée wow. comme la bannière étoilée,
ouais.
donc cette taupe vit aux États-Unis. Hein. Et elle a au lieu d'avoir un nez, elle a un nez en étoile. C'est-à-dire que sa forme, c'est absolument immonde d'ailleurs. Hein. Il y a bien sûr deux espèces de narines au bout du museau.
Ah.
Et il y a une demi-douzaine d'espèces de tentacules au bout du nez de cette bestiole.
C'est hideux.
Ah, vous l'avez dit, ça c'est absolument. Hein, c'était vraiment une drôle de.
Mais justement, par curiosité, allez sur Internet si vous l'avez, allez voir la photo, c'est abominable. C'est un monstre.
Ah oui, tout
à fait. Ça vient d'ailleurs. Alors que la taupe, elle est plutôt sympathique.
C'est une gentille mémère. Hein, bon, si vous la prenez à la main, elle va essayer de se défendre.
Mais c'est normal.
C'est un truc qui est extrêmement. C'est un muscle, quoi. C'est très costaud. Mmh.
La bouche du condylure, c'est un fait. Oh
ah oui.
Les coloris en plus. Bon, mon ami, on se retrouve la semaine prochaine. On va parler donc ce fameux gibier, notamment ce que vous avez dit tout à l'heure, c'était pas les bécasses. Si, c'était les bécasses.
Si, on a parlé des bécasses, des vanneaux. Et il y a une opportunité grâce au calendrier lunaire. La lune est gibbeuse.
La lune est gibbeuse.
Ah oui.
Ça veut dire quoi ça?
Ben c'est même un terme officiel, c'est-à-dire que elle est à la moitié de sa moitié, donc elle forme une bosse. Et le mot gibecière vient du fait que quand les gens rentraient avec du gibier, ils avaient une bosse dans le dos. Donc le gibier n'est pas bossu, mais était mis dans former la bosse. Donc gibeuse.
D'accord. Bon ben voilà. On parle de tout ça la semaine prochaine, les amis. Salut mon Jean-Pierre.
Allez, à bientôt.
Salut.